Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion tous les mardis matin à 10h. L'antenne de Graphite, c'est sur le 94.9, bien sûr, sur la bande FM, mais aussi graphite.net pour ceux qui nous écoutent soit en direct, soit grâce au podcast Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël et nous retrouvons Carole aujourd'hui.
Bonjour Jean-Noël.
Ça y est, tu as décidé d'installer ta tente.
Exactement.
Dans le studio.
Tout à fait.
Et tous les samedis, tu te réveille pour pouvoir être directement opérationnel au micro.
Tout à fait, évidemment, là, tout le mois de septembre, en tout cas, j'ai élu domicile dans les locaux de Graphite.
Eh bien, c'est un fort plaisir. Nous sommes aujourd'hui le 23 septembre. Alors, quelques petits éléments, petites informations qui ont eu lieu un 23 septembre. Par exemple, en 1846, l'astronome allemand Johann Gale confirme l'existence de la planète Neptune en 1846.
C'est
quand
fou,
même.
Hein,
il y a plus de 180 ans à peu près. L'aviateur Roland Garros, parce que Roland Garros était un aviateur, ce n'est pas un tennisman, rappelons-le. Il réussit en 1913 la première traversée aérienne sans escale de la Méditerranée en un peu plus de 7 heures. En 1998 à Lyon, un Néo-Zélandais de 48 ans se fait greffer une main droite par une équipe internationale composée des meilleurs spécialistes mondiaux de la microchirurgie. C'est une première médicale mondiale, c'est à Lyon, c'était en 98 et l'année d'après en 99, la sonde spatiale Mars Climate Orbiter est détruite à cause d'une erreur de navigation pendant sa mise en orbite autour de Mars à basse altitude. Naissance de William Cameron McCool. C'est un astronaute américain. Il est né le 27 septembre 1961. Donc on lui souhaite un bon anniversaire. Il réalise un seul vol. C'était en 2003.
Moi, je suis pas choquée, mais oui.
Non, c'est pas ça. C'est ce que je dis. Bon anniversaire. Et en fait, c'est vrai, quand j'avais préparé l'émission, j'avais choisi William Cameron McCool, qui est donc né bien le 23 septembre 1961, mais il est mort en 2003, dans l'explosion, la désintégration de la navette spatiale Columbia, on s'en souvient. Je dis ça, je suis désolé, c'est horrible. Et il y a 20 ans, en fait, parce que j'avais choisi, voilà, je me dis, ça fait déjà 20 ans que la navette spatiale Columbia s'est désintégrée. Et à l'intérieur, il y avait donc William Cameron. Il était donc, c'est son unique vol et il n'a pas eu une chance.
C'est vrai que c'est terrible.
C'est dégueulasse. 7 membres d'équipage qui sont morts le 1er février 2003. Voilà. Et en fait, la navette s'est désintégrée lors de sa rentrée atmosphérique. Mm-hmm. C'est hyper frustrant, en fait.
Ils avaient tout fait.
Et le retour a été un peu compliqué. Donc voilà, je suis désolé. Décès de Urbain Le Verrier. Donc lui, on est sûr qu'il est mort à Paris. C'était un 23 septembre 1877. Le Verrier. Alors, Le Verrier, c'est un nom peut-être qui nous dit un petit peu quelque chose. Il y a une rue, il y a un truc, Le Verrier. Il était astronome, mathématicien, il était français, spécialisé en mécanique céleste. Il est le fondateur de la météorologie moderne française, Le Verrier. C'est pour ça que c'est un nom qui nous dit quelque chose. Il est mondialement connu pour avoir découvert quoi ?
C'est une très bonne question.
Eh bien, la planète Neptune. Ah. Alors, si tu as bien suivi ce que je t'ai dit tout à l'heure, un astronome allemand qui s'appelle Johann Gale, il confirme l'existence de la planète Neptune en 1846. Et en fait, Le Verrier, il va découvrir la planète Neptune uniquement par calcul.
Génial.
C'est fascinant.
Ouais.
Et c'est confirmé ensuite par Gale. Voilà. Et donc Le Verrier, au niveau de la météorologie, c'était vraiment un précurseur. Il est décédé donc un 23 septembre 1877. Voilà, toi Carole, pour la suite.
Bah écoute, on te remercie en tout cas pour cette éphéméride passionnante. Ah, on apprend vraiment des choses. Alors, je vais commencer par un sujet qui n'est pas forcément le plus simple, mais qui a retenu mon attention et qui fera un petit peu le lien, parce que la semaine dernière, on a parlé du nucléaire et puis on s'est lancé dans des grandes discussions ensemble sur le sujet. Donc, on va voir qu'il y a quand même un rapport et que ça vient un petit peu étoffer aussi nos connaissances. Mais là, on va faire appel à nos souvenirs potentiellement de physique, chimie. Alors, il s'agit en fait d'une équipe internationale qui est parvenu à synthétiser un isotope de l'oxygène. Ça faisait longtemps en fait qu'il le cherchait, cet isotope, car son nombre de protons, 8, et de neutrons, 20, lui confère un caractère doublement magique. Alors on va l'expliquer, là on ne parle pas de magie comme on pourrait le penser. C'est selon la terminologie des physiciens nucléaires, qui est certainement un petit peu moins sympathique que lorsqu'on assiste
moins artistique,
à certains spectacles. Mais ses propriétés, justement, là, on crée le débat pour savoir si c'était si magique ou pas, et on va essayer d'y répondre. Donc c'est une équipe qui était dirigée par Yusuke Kondo du Tokyo Institute of Technology, donc au Japon, qui a observé pour la première fois un isotope rare de l'oxygène, l'oxygène 28. La détection a eu lieu dans un accélérateur de particules du RIKEN, célèbre institut de recherche nucléaire à Wako, au Japon. Donc voilà, on est déjà dans des conditions très particulières. Je me suis dit, où est-ce qu'ils l'ont trouvé ? Non, un accélérateur de particules. Le noyau de O28 se compose donc de 8 protons et 20 neutrons. Deux chiffres qui résonnent d'une manière particulière aux oreilles des physiciens nucléaires, car cela fait de l'oxygène 28 un noyau doublement magique, en tout cas en théorie. Alors, un noyau est dit magique lorsqu'il contient un nombre de protons ou de neutrons, donc c'est ce qu'on appelle les nucléons, particuliers. Écoutez bien, 2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126. J'espère que vous avez bien retenu. Si l'on se représente un noyau en fait comme un oignon composé de plusieurs couches empilées d'épaisseur variable, ils correspondent au nombre maximal de nucléons que l'on peut disposer sur une couche. C'est pour ça que je disais, moi ça me rappelle les cours en effet de physique chimie à la fac. L'oxygène 28 avec ses 8 protons et 20 neutrons est donc bien doublement magique sur le papier. Cette structure confère normalement une grande stabilité au noyau en question. Mais bon, c'est là que ça se complique car la durée de vie de O28 n'est que de l'ordre de 10 puissance moins 22 secondes. Alors, magique ou pas, la question est posée, mais oui, c'est très court.
10 puissance moins 28 secondes, c'est-à-dire
0,
oui, enfin, juste pour dire, c'est,
il y a 22 zéros.
C'est même pas un claquement de doigts.
Parce que oui,
le
claquement de doigts
est déjà beaucoup plus long que ça.
Exactement.
Donc, c'est totalement éphémère. Mais ils sont certains de l'avoir identifié.
Alors justement, c'est là où on va rentrer un peu dans les... oui, mais en fait... voilà. Donc, parce que sinon c'était un peu trop simple. Ben, c'est pas aussi facile que d'autres isotopes. Ah, voilà.
C'est tout le défi de cette découverte.
Exactement, c'est tout le défi. Et alors, moi, je reste quand même un petit peu sur ma faim sur ce qui est vraiment un nom magique dans le domaine des physiciens nucléaires. Mais bon, là, j'avoue qu'en effet, c'était pas ma spécialité. Voilà, je trouve que leur argument est pas tout à fait clair. Donc, moi, je comprendrais que ce soit le cas des auditeurs. Mais on va continuer de creuser, on va voir si on comprend un petit peu mieux. Donc, alors déjà, ce qui est dit, parce que là, on se dit, OK, 10 puissance moins 22 secondes, c'est apparemment du coup un exploit de faire cette observation, puisque ça fait plus de 30 ans qu'il tentait de voir cet isotope en fait. Ça, c'est ce qu'explique Olivier Sorlin, qui est physicien au GANIL, le grand accélérateur national d'ions lourds de Caen, et qui a co-signé l'étude. Il dit, nous l'avons notamment cherché ici au GANIL sans succès. Nous espérions le voir directement parce qu'on le croyait d'une durée de vie suffisamment longue pour l'observer. Comme il nous échappait, nous en avons déduit qu'il ne l'était pas, ce que confirme sa très courte durée de vie. À peine formé, il se désintègre en un noyau d'oxygène 24 et 4 neutrons. Donc en fait, voilà, il est soi-disant stable, mais là on voit qu'il se dégrade quand même très vite. Donc les chercheurs du RIKEN n'ont ainsi pas directement observé le fameux isotope, mais ils l'ont déduit, en fait ils ont déduit sa présence. On reste un petit peu sur nos frustrations de la semaine dernière quand on parlait des objets extrêmement éloignés dans l'espace. En fait, là, ils ont déduit sa présence à partir des trajectoires et de l'énergie de l'oxygène 24 et des neutrons émis lors de sa désintégration. La traque de l'oxygène 24 a été longue, car la détection simultanée de ces 4 neutrons est délicate. Ce sont des particules qui laissent peu de traces lors de leur passage dans la matière et sont diffusées dans de multiples directions, nous dit Olivier Sorlin. La production de l'O28 est aussi... donc le fameux O28, est aussi toute une aventure. Les chercheurs ont utilisé un faisceau de calcium-48 dirigé sur une cible de béryllium. La collision entre les deux a généré une collection d'atomes plus légers, dont le fluor 29, donc avec 9 protons, 20 neutrons, produit à presque la moitié de la vitesse de la lumière. Oui, donc en plus, voilà, c'est des collisions de particules à des vitesses extrêmement élevées. Donc cet isotope du fluor, le fluor 29, a ensuite été sélectionné et a bombardé une cible d'hydrogène liquide, le transformant ainsi en vol en oxygène 28, 8 protons et donc 20 neutrons lorsqu'un proton du fluor 29 entre en collision avec un proton de la cible d'hydrogène. Est-ce que tout le monde m'a suivi jusque-là ?
Tu nous feras un résumé.
C'est une autoroute avec des particules, donc déjà ils ont dû générer avec des faisceaux comme ça dans leur accélérateur. Et c'est en fait finalement l'aboutissement de plusieurs collisions.
C'est ça, c'est exactement ça. Ce qu'on comprend, c'est que en fait, produire ce fameux oxygène 28, dont pour l'instant on ne comprend pas trop l'intérêt, mais bon,
oui, on va y venir.
On comprend qu'il y a un objectif, se fait pas tout seul et se fait par une succession de collisions de protons dans des configurations expérimentales. Pas simple.
Exactement.
Parce que tu parles d'un accélérateur de particules, oui. Tu n'en as pas à tous les coins de rue.
Exactement.
Donc, avec des technologies qu'il faut savoir maîtriser également. Donc, ok, jusque-là, on arrive à suivre.
Et donc, c'est pour ça qu'il parle de prouesse expérimentale au pluriel,
oui. Hein,
pour réussir à observer ce noyau qu'on pensait magique. Parce que visiblement, certaines propriétés, visiblement, au niveau de la physique nucléaire, on va y venir, ça représentait quelque chose. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, justement, ils reviennent un petit peu sur sa magie. Que c'était peut-être pas si magique que ça, puisque en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que le noyau n'est pas lié. L'interaction forte, responsable de la cohésion du noyau, peine à retenir les neutrons des couches les plus externes. C'est une première remise en cause de sa magicité. Une manière plus probante encore de tester son caractère magique serait de déterminer l'énergie qu'il faut pour l'exciter. Elle devrait être faible si le noyau n'est pas magique. Cependant, on ne connaît pour l'instant que l'énergie de son état fondamental. Donc oui, là on rentre aussi dans des concepts vraiment propres à la discipline. En fait, qu'est-ce qu'ils font avec ces recherches autour des noyaux magiques ? Pourquoi est-ce qu'on veut regarder ce qui se passe ? C'est que pour les chercheurs, il s'agit en fait de mieux comprendre l'interaction forte au cœur de l'édifice nucléaire. C'est la plus méconnue des quatre grandes forces de la physique. Quelles sont ces différentes composantes ? Jusqu'à combien de nucléons peut-on ainsi assembler grâce à elles ? L'intérêt du sujet dépasse la physique microscopique au niveau du noyau atomique pour rejoindre l'astrophysique et l'abondance des éléments chimiques produits dans l'univers par ses forces. La fusion de deux étoiles à neutrons forme beaucoup d'atomes très lourds et très riches en neutrons qui se désintègrent pour produire les éléments lourds stables qui existent sur Terre. Ces études d'isotopes très riches en neutrons, comme l'O28, donc c'est pour ça, voilà, c'est un isotope qui est intéressant de ce point de vue, dans les collisionneurs de noyaux atomiques, ouvrent ainsi une fenêtre sur les mécanismes en jeu dans ces astres extraordinaires et inatteignables et qui ont ensemencé l'univers en éléments chimiques qui sont aujourd'hui essentiels dans les technologies moderne. Donc en fait, voilà, on essaye encore là, on revient sur les mécanismes, c'est de la recherche, j'allais dire, fondamentale,
oui,
au départ.
C'est de la recherche fondamentale.
De découvrir en fait comment ça fonctionne, comment ces liens au niveau, donc tout ce qui va être atomes, noyaux, etc., comment ça se produit, ces fameuses liaisons. Et là, on voit bien sur des recherches extrêmement techniques et spécifiques. Et donc, finalement, ce que moi, je retiens de cet article, c'est qu'on on peut suivre ce qui se passe pour donc, ce fameux O28 et que, du coup, il est hyper intéressant de par sa composition, mais que, justement, on revient peut-être sur ce qui, attirait les chercheurs au départ, mais leurs recherches leur montrent aussi que finalement, il n'est peut-être pas aussi magique que ça.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est... Là, on passe de la physique purement nucléaire à de l'astrophysique. Oui. C'est pas souvent... Enfin, c'est assez périlleux d'aborder ce sujet par le média radio, parce que c'est hyper compliqué dans le sens où c'est hyper abstrait en fait.
Exactement, oui, tout à fait.
Par le biais du média radio, c'est assez compliqué. Mais du coup, on essaye de faire ces expériences en laboratoire dans des conditions assez particulières évidemment, pour comprendre un petit peu comment a été créé notre univers en fait.
Exactement. Et après, pour toutes les recherches, on le sait très bien, donc dans le domaine aussi du nucléaire, on essaye de contrôler l'atome, on essaye de contrôler les fusions, la fission. On parle de beaucoup de gros sujets comme ça, et ça y contribue, c'est dans tout cet écosystème. Et les isotopes de l'oxygène, alors je dis ça vraiment sans avoir là d'autres articles en tête, mais forcément qu'on se doute que c'est un enjeu majeur, puis vu ce que cet élément représente pour nous sur Terre.
Bien sûr. Non, mais effectivement, alors c'est difficile d'expliquer par le biais de cette émission parce que c'est des sujets très abstraits, très pointus. Mais effectivement, on est en clair d'essayer de comprendre notre univers.
Tout à fait.
C'est ça.
Passionnant.
En fait. Ça veut dire que pour l'instant, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est très bien, ça rappelle un peu l'humilité du scientifique. Donc effectivement, merci Carole pour cet exercice assez périlleux.
Je l'ai regretté en cours d'article, non, mais c'est fait.
Ben, non, parce que c'est pas simple. Mais on comprend très bien que ne serait-ce que parvenir à ce résultat qui est totalement éphémère, parce qu'on disait un claquement de doigts, c'est encore beaucoup
même
plus
pas,
long.
Oui, voilà, c'est...
Comment tu arrives à ce résultat? Comment tu as la preuve que tu as obtenu ça alors que tu ne peux pas le prouver, parce qu'à peine c'est existé que c'est disparu? Enfin, c'est très compliqué derrière, effectivement.
Exactement.
C'est ça qui est passionnant, là encore, dans cet exercice de ces chercheurs, bien évidemment. Alors moi, j'ai été un petit peu plus terre-à-terre, je cherchais quelques articles, il n'y a aucune transition, mais je trouvais ça intéressant parce que tu l'avais un petit peu évoqué lors de l'émission de la rentrée avec c'était pas des grèves, c'était le fait de culture d'organes avec les porcs.
Oui, tout à fait. Oui.
Et tu parlais également de réseau sanguin. Et en fait, il y a un article de Futura qui explique qu'il y a des scientifiques qui ont réussi à recréer des vaisseaux sanguins en laboratoire. Ça reprend un peu ce que tu expliquais, évidemment. Cette fois, ce sont des chercheurs à l'université de Melbourne, hein, nous sommes en Australie, qui ont mis au point une méthode pour fabriquer des vaisseaux sanguins à partir de cellules et de tissus humains. Donc là, on reste vraiment au niveau de l'homme. Il y a le cochon n'est pas là, balance mon porc, on ne le veut pas dans le laboratoire. Les défaillances des vaisseaux sanguins sont l'une des principales raisons pour lesquelles les maladies cardiovasculaires sont la... Pardon, je ne sais plus ce que je dis. Oui, la défaillance des vaisseaux sanguins, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, pardon. Et c'est ce qu'expliquent les auteurs des études. Alors, il reste du travail, bien sûr, pour essayer de comprendre et d'apporter des solutions. Et donc, il y a des nouvelles greffes vasculaires qui présentent des propriétés mécaniques appropriées pour traiter, justement, ces maladies cardiovasculaires. Et il y a donc des greffons synthétiques qui sont souvent utilisés, notamment pour le pontage, mais cela n'existe pas pour les vaisseaux sanguins de petit diamètre, comme l'artère coronaire. Et dans ce cas, le sang coagule et ça va obstruer un peu le greffon. Et pour essayer d'imiter au mieux les vaisseaux sanguins naturels, eh bien, ces chercheurs australiens ont réussi à aligner des cellules musculaires lisses autour d'une couche interne d'autres cellules qui vont favoriser la circulation du sang et qui vont empêcher la coagulation. Ils ont pu faire ça en laboratoire et ils ont également utilisé une technique de congélation pour aligner ces fibres. Je trouve ça assez intéressant de tester ce genre de protocole expérimental. Bien que les vaisseaux sanguins fabriqués ne soient pas encore prêts pour les pontages, nous dit-on, ces résultats marquent une avancée significative dans le domaine de l'ingénierie tissulaire, c'est ce qu'expliquent les auteurs. Notre équipe a conçu une couche de polymère pour qu'elle se dégrade avec le temps, ce qui permet d'obtenir un vaisseau sanguin entièrement biologique. C'est-à-dire qu'on a quelque part plus de problèmes de rejet. C'est ça qui est tout l'intérêt également. Nous devons donc vérifier que cette couche se dégrade à un rythme approprié, faute de quoi le greffon pourrait perdre son intégrité et se rompre. Et donc du coup, en essayant, en réussissant justement à recréer ces vaisseaux sanguins et faire en sorte que du coup la greffe prennent et que ce support qui a permis de faire ces vaisseaux sanguins disparaisse d'une façon naturelle et qui n'ait pas, comment dire, d'impact négatif sur la suite, ça serait totalement révolutionnaire parce qu'effectivement, c'est un domaine, hein, le système vasculaire est encore très peu maîtrisé, on va dire. Enfin, comment dire, on le maîtrise dans le sens où on connaît, on comprend comment il fonctionne. Par rapport au cerveau, par exemple, on a encore beaucoup de lacunes. Là, on sait comment ça fonctionne. Par contre, c'est très difficile de pouvoir le restituer.
Exactement.
C'est assez intéressant de voir qu'on a encore de véritables avancées intéressantes parce que du coup, on va pouvoir, à partir de cette découverte, apporter des solutions pour les accidents vasculaires cérébraux, bien sûr, les anévrismes, les crises cardiaques et ainsi de suite. Donc c'est plutôt positif.
Oui.
J'avais envie d'être positif aujourd'hui et cet article que j'ai retrouvé dans tous ces articles que j'ai sous les yeux me dit que c'était assez intéressant pour la transition avec la pause musicale que je vous propose. Petit teasing, tu nous parles de quoi après ?
Eh bien, on va parler de l'Arctique, des végétaux et des chiens de traîneau.
C'est génial, vous écoutez Graphite, à tout de suite.
Yo, family. I'm on this team in a minute, bro. Give me a shout, blood.
Anyway, all you also massive know it's time to like. Look, I never send hiatus. Hoping the plan don't stray, no way I've been raising. The bar so high, so long, like why am I waiting? When I'm resembling who, look around and it feels so spacious. And it's outrageous, look, cause I miss when the air felt clean and my eyes weren't tainted. Sitting on a 997 route gazing, I can feel me worn down, I'm running out of patience. Small town mentality becoming more blatant. Listen too much, you can start to get dangerous. Suck you in, spit you out in the matrix. Time here ain't nothing that you should play with. Looking at guys with your faces sedated, the bleak turn blue, but my dreams stay arranged in. All of these shoes in the basement came a long way from walks in the rain and talks in the same vein. Battling my demons a day late. Don't speak unless it's something I believe in. Don't waste the air that you breathing. Young me heard it loud, his voice, his ego's creeping. It's changed now with something different, but I'm still bleeding.
This ain't no love, this ain't no time to see me. Nothing lost when the feeling's gone, so just say no more. Can't feel the pain no more, watch when you see me. Nothing lost when the feeling's gone, but just say no more. Can't feel the pain no more, believe me. Nothing lost when the feeling's gone, so just say no more. Until I sing no more, watch when you see me.
Now that the air feels clean and my eyes ain't tainted. More to lose than I ever had taken. Cold place when your fate forsaken. To think back then I used to wake up shaking. Like wine, had a vision been aging. I seen time flying, a bit of me changing. My eyes still bigger than my belly, I'm taking. Everything anyhow, anyway, remember them days. Dad bringing us, give out eight. Same time, round about eight, but not this. Touch new sides of the globe when I land, send pics on my plate. Just picking up pace, hoping I never slow down. To be real, I can't see no way, yeah, they never been safe. Throw stone by the high face, it's a new phase. But they won't say, cause there ain't no love, oh.
This ain't no love, this ain't no time to see me. Nothing lost when the feeling's gone, so just say no more. Can't feel the pain no more, watch when you see me. Nothing lost when the feeling's gone, but just say no more. Can't feel the pain no more, believe me. Nothing lost when the feeling's gone, so just say no more. Until I sing no more, watch when you see me.
Looks in the same way, same way. So long for the Navy. Call up on me lately, but don't nothing faze me. So long for me, so long. Whoa. So long to me. So long for the Navy.
Graphite 94.9 FM.
C'était sympa, c'était Wesley Joseph avec Hiatus, le nom du titre. Je vais y arriver, le titre qu'on vient d'écouter, excusez-moi. Wesley Joseph sur l'antenne de Graphite. C'est à la fois très moderne et puis finalement une petite finition assez sympa. C'est bien parce que sur l'antenne de Graphite, vous découvrez plein de nouveaux artistes également. C'est aussi l'un des intérêts de nous suivre sur l'antenne de Graphite tous les samedis à midi et tous les mardis à 10h. C'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Je suis donc avec Carole pour cette émission qui nous emmène en Arctique ou en Antarctique.
Oui, alors en Arctique.
En Arctique. En Arctique. Avec des chiens de traîneau, c'est parti.
Exactement. Bon voyage. Oui. On va prendre un petit peu de fraîcheur. Donc au Svalbard, un archipel norvégien qui se trouve donc dans l'océan Arctique et où en fait, des chercheurs ont constaté que la végétation était plus dense et ont justement cherché à expliquer pourquoi c'était devenu plus dense. Donc en fait, ces chercheurs, ils ont établi un lien direct entre l'élevage des animaux et le développement de la verdure sur ces îles. Alors on va voir un petit peu en détail comment ça a été fait. Mais ce qu'ils nous disent également du coup dans cette étude, et notamment la première autrice, Élise Gallois, c'est que ce n'est pas forcément un bon présage pour la suite. Donc en plein milieu de l'océan Arctique, s'étend l'archipel glacé de Svalbard, dont vous avez peut-être entendu parler, région habitée la plus au nord de la planète. Si sa température moyenne annuelle est de moins 4 degrés, Svalbard attire chaque année des milliers de touristes. En 2018, ils étaient 72 000 à avoir foulé le sol de ces îles norvégiennes et parmi les activités phares proposées par les autochtones, eh bien la célèbre balade de chiens en chien de traîneau a été bien sûr à la première place et avait connu donc un très très grand succès. Aujourd'hui, le Svalbard compte 12 parcs à chiens. En analysant des clichés satellites de Svalbard, des chercheurs se sont rendus compte que la végétation s'était considérablement accrue sur des sites bien particuliers, notamment ces fameux parcs où les chiens de traîneau vivent quand ils ne sont pas en promenade. Et donc d'après cette étude publiée dans la revue EcoEvoRix, les excréments de chiens fertiliseraient le sol, favorisant la prolifération des espèces végétales. Alors, ce que nous dit Élise Gallois, c'est qu'entre 1985 et 2021, la végétation a augmenté de 44% dans les parcs à chiens en activité et de 39% dans les sites d'élevage abandonnés. Et alors, même elle ne s'attendait pas à un tel effet. Pour obtenir ces résultats, l'équipe de chercheurs internationale a examiné des images satellites de l'archipel sur 36 ans. Ils ont ensuite calculé une valeur appelée NDVI, pour Normalized Difference Vegetation Index, qui permet d'évaluer la densité de végétation des paysages. Plus la valeur du NDVI est élevée, plus la végétation est productive, indique la chercheuse à Science et Avenir. Donc article évidemment que j'ai trouvé du coup sur leur site. A l'inverse, des valeurs plus faibles indiquent une végétation moins dense et en dessous d'un certain seuil, elles représentent des zones complètement désertiques. Donc d'après les scientifiques, la densification révélée par les clichés satellites pourrait s'expliquer par une modification de la chimie du sol dans ces régions. Les excréments des animaux peuvent contenir de grandes quantités d'azote et de phosphore. Ces nutriments s'infiltrent dans le sol et favorisent la croissance des plantes. Les sols de la toundra sont généralement pauvres en nutriments, de sorte que tout enrichissement, entre guillemets, accidentel, pourrait marquer durablement les paysages. Même si les sites d'élevage abandonnés n'ont pas reçu de fertilisation supplémentaire pendant de nombreuses années, il semble que cette activité ait encore un impact réel et durable sur la toundra environnante. Donc ça veut dire que même si le site sur lequel les chiens étaient d'abord, conservés, en tout cas gardés donc dans un parc, sont abandonnés, et bien il y a quand même un effet sur le long terme. Donc c'est ça qui est intéressant. Et les chiens ne sont pas les seuls animaux qui affectent la végétation du Svalbard. Écuries de poney, falaises où nichent les oiseaux de mer, parcs à bétail, les chercheurs ont constaté une densification de la végétation sur tous les sites, y compris les zones témoins sans animaux. Comme les températures estivales continuent à se réchauffer au fil du temps, la productivité des plantes augmente considérablement un peu partout. Donc là, on voit que c'est finalement multifactoriel. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? On n'en est pas sûr, hein, parce que justement, ce développement de la végétation dans cette région-là pourrait avoir des conséquences néfastes à plusieurs niveaux. Il peut sembler prometteur d'entendre que les plantes bénéficient de conditions favorables à leur croissance, mais l'histoire écologique est en fait beaucoup plus compliquée. C'est la chercheuse Élise Gallois toujours qui nous alerte. En effet, la densification de la végétation en Arctique pourrait accroître le réchauffement climatique. Les sols herbeux retiennent davantage la chaleur du soleil que les sols nus ou la neige qui la renvoie. Même à l'échelle locale, les chercheurs craignent que la flore, justement, qui existait au départ, hein, localement, ne disparaisse. Près de ces sites d'élevage poussent essentiellement des espèces végétales exotiques qui peuvent supplanter les espèces locales. Ces changements pourraient aussi modifier le comportement de la faune. La densification du couvert végétal offre par exemple un meilleur abri aux espèces prédatrices telles que le renard arctique, ce qui peut être préjudiciable aux populations d'oiseaux. Donc évidemment, c'est là où la co-autrice de l'étude, Christine Beig-Vestegaard, conclut en disant que des recherches complémentaires seront nécessaires pour identifier d'autres effets sur les interactions entre espèces et l'adaptation des espèces exotiques aux conditions de l'extrême Arctique.
C'est intéressant parce qu'on parle très rarement de ce continent, en fait.
Et pourtant, on sait que c'est clé parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de la régulation, justement, du climat de manière plus générale. Et finalement, à nouveau, des modifications qui sont en fait induites par l'activité humaine peuvent avoir
c'est une preuve supplémentaire, justement.
C'est ça. Et alors qu'on pourrait se dire qu'en effet, c'est plutôt sympathique d'y voir de la végétation, parce que c'est vrai que c'est très très désertique. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez regarder les images sur Internet. C'est vrai que c'est devenu pareil une destination touristique à la mode ces dernières années, ce qui vient poser des problèmes aussi environnementaux, forcément. Eh bien, on est peut-être en train justement d'abîmer une partie du monde qui est aussi extrêmement importante pour la régulation du climat.
Vous écoutez Biotine, émission d'actualité scientifique. Je ne peux que vous inciter à lire régulièrement des revues d'actualité scientifique, de vulgarisation scientifique, par exemple Science et Avenir, parce que Science et Avenir, si vous avez le temps, vous avez des dossiers assez complets.
C'est
et
vrai,
puis des fois, quand vous n'avez pas trop le temps, ou pour quelque raison que ce soit, parce que vous êtes un peu feignant, il y a des petites brèves très sympas, et qui parlent d'un petit peu tous les sujets. Alors, en lien avec ce que tu viens d'évoquer, il y a une équipe de l'université de Sydney qui a voulu calculer la surface que recouvrent les plantes sans s'enracine du genre Bryophyta. Alors en fait, ce sont ce qu'on va appeler les mousses qui peuplent un petit peu les forêts, les sous-bois. Eh bien, la surface, elle est presque équivalente à celle de la Chine sur l'ensemble de la Terre. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas évalué. C'est une équipe donc australienne qui a calculé cela et qui révèle donc l'importance des mousses, très importante par rapport au lien que tu évoquais, l'absorption bien sûr du carbone et le fait de favoriser aussi tous les écosystèmes. Et donc du coup, les mousses ont un impact aussi assez important. 9 400 000 km² de mousses sur Terre. C'est un calcul qui a été fait. Et pendant ce temps-là, tu as l'université de Rhode Island qui a voulu travailler sur la ville de New York et qui a donc analysé le fait que la ville de New York s'affaisse de 1 à 2 mm par an en moyenne. Ça peut même aller jusqu'à à peu près 5 mm par endroit. Ça s'affaisse pourquoi ? New York.
Aucune idée.
New York. New York. Il y a des gratte-ciel tellement imposants que tout ça a un impact. 764 millions de tonnes, c'est la masse totale des gratte-ciel qu'il y a dans New York, essentiellement à Manhattan. Mmh. 764 millions de tonnes. Écris ça sur une feuille de papier, tu vois tout de suite un chiffre conséquent. C'est ça qui a un impact sur cet affaissement de New York, qui rend la ville, bien sûr, plus vulnérable face à la montée des eaux. Ça a des impacts.
Oui, ça, évidemment, mais ouais.
Mais c'est énorme. Si on va jusqu'à 5 mm par an, ça te fait, bien sûr, 1 cm tous les 2 ans. Ça te fait 5 cm tous les 10 ans. C'est rien à l'échelle de l'humanité, 10 ans. T'imagines que si ça continue à s'enfoncer comme ça, voilà.
Et surtout, moi, ce que je sais, par contre, c'est que la ville s'est faite assurer par rapport, justement, à une potentielle inondation, etc. Par contre, je n'avais pas entendu parler du poids des gratte-ciel. Alors qu'ils continuent d'en construire. Hein. Ils continuent, il n'y a pas de...
Bien sûr, quand on va à Manhattan, ce n'est pas toi que je vais dire ça. Enfin, c'est... C'est lourd, dans tous les sens du terme, en fait.
Mais c'est vrai que de là à aller faire s'enfoncer, c'est presque ça, en fait. Hein,
c'est un enfoncement de la ville, à cause de ça. Autre chose, cette fois, nous sommes toujours aux États-Unis, Université de Washington. On travaille sur les plantes. Alors, on sait que les plantes, elles sont dépourvues de système nerveux, mais elles sont sensibles au toucher. Mmh. Et donc, pour la première fois, une équipe de biologistes a travaillé sur quelques plantes, et notamment des plants de tabac. Et cette équipe a pu identifier les messages moléculaires qui circulent lorsqu'on caresse une plante, mais aussi lorsque le contact cesse. Il y a une réaction moléculaire qui se fait et qui dévoile une sensibilité beaucoup plus fine qu'on ne le pensait. Donc elles réagissent quand on les touche. Il faut leur parler. Il y a eu un article qui avait
évoqué ça. C'est vrai que oui.
Et il faut maintenant les toucher. Je parle des plantes, bien sûr. Deux informations, toujours dans Science et Avenir. Pour la première fois, la composition chimique d'un parfum romain créé il y a plus de 2000 ans a pu être déterminée. On a retrouvé il y a 3 ans dans la ville d'Andalousie, la ville de Carmona, un flacon à onguent qui est resté hermétiquement clos pendant 2000 ans. Le parfum a été identifié comme de l'essence de patchouli. C'est une plante toujours utilisée en parfumerie et qui est caractérisée par une odeur boisée, camphrée, assez puissante. C'est la première fois que cette fragrance est détectée dans un contexte romain. En fait, l'Empire romain sentait le patchouli, c'est ce qu'on nous dit, cette université de Cordoue en Espagne.
C'est génial. Moi, je trouve ça fascinant.
Et ben, surtout 2000 ans après, on arrive à retrouver ça et on va pouvoir ensuite avoir en réalité virtuelle une visite de village romain avec l'odeur,
avec
la
odeurs.
Sensation du toucher, on aura presque tout. Et autre information, alors là, comme c'est des petites brèves, on saute du coq à l'âne, bien sûr. C'est une excellente nouvelle, et c'est intéressant d'en parler, une excellente nouvelle qui se dégage des campagnes vaccinales menées contre les papillomavirus dans de nombreux pays occidentaux, dont la France. Une seule dose de vaccin au lieu de 2 voire 3 injections qui sont actuellement recommandées. Une seule dose de vaccin suffit pour protéger jeunes filles et jeunes garçons contre cette famille de virus à l'origine de cancer du col de l'utérus, de cancer du pénis, du vagin, de la vulve et de plus en plus plus de la gorge, notamment chez les hommes. Alors que les pays ayant résolument vacciné leur population depuis 2006 ont vu le nombre de cancers du col de l'utérus s'effondrer, l'enjeu est maintenant de généraliser la couverture vaccinale dans les pays en développement qui concentrent près de 90% des décès. Jusqu'à présent, la nécessité de moins deux doses de vaccins impliquait des infrastructures un petit peu développées, compliquées, des dépenses importantes et une mise en œuvre aussi de campagnes vaccinales assez élaborées. Et bien du coup, le fait qu'on aurait besoin que maintenant d'une seule dose de vaccin, c'est beaucoup plus simple de pouvoir vacciner des populations cibles. Donc c'est une bonne nouvelle et c'était intéressant de pouvoir le prédire. Et enfin, on va terminer avec cette information que j'ai retrouvée un petit peu partout parce que c'est le chiffre qui est assez intéressant. Il y a des petits vers qu'on appelle des nématodes, genre de vers de terre, mais vraiment tout petits, qui ont été congelés depuis 46 000 ans.
D'accord.
Ils ont été congelés à 40 mètres de profondeur en Sibérie. Ils ont été ramenés à la vie.
Non.
Mais si.
C'est Jurassic Park.
Ils
pour
ont
les...
ensuite donné des naissances à plus de 100 générations. Par un principe de parthénogenèse, comme c'est des vers, ils se séparent et ainsi de suite. Mais en tout cas, ils ont pu donner naissance ensuite à plus de 100 générations. Et ils sont morts au bout de quelques semaines, comme tout ver de terre, en fait. C'est fascinant. Pendant 46 000 ans, ils sont congelés. On les décongèle. Ils se réveillent.
Ils se reproduisent.
C'est hibernatus, en fait. Ouais. C'est fascinant. C'est,
Et par contre, et quand ils disent qu'ils sont morts, enfin tous, c'est-à-dire que même les descendants... Et
non, la... non, les deux parents, on va dire.
Ah oui, d'accord.
Les parents sont morts. Bah, ils ont, voilà, ils ont voulu se...
Mais par contre, là, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ils ont leurs descendants qui sont dans un laboratoire encore et qui constituent justement cette descendance issue de parents qui avaient cet âge avancé, quoi.
Exactement, parce qu'en fait, ils ont fait une analyse génétique qui a révélé qu'ils appartiennent à une espèce encore jamais décrite. En fait, on ne connaissait pas du tout cette espèce. Et donc, on les a appelés les Panagrolaimus colimaensis, évidemment. C'est en Russie que ça se passe. Hein. Mais évidemment, on ne connaissait pas ces espèces-là. Et ils pulvérisent, mais totalement, le précédent record connu de congélation, qu'on appelle une congélation viable, c'est-à-dire que quand tu es décongelé, tu es vivant encore. C'était 25 ans, le record. Là, on est à 46 000. C'est une info qu'on a retrouvée pas mal dans différents articles. Mm-hmm. J'ai lu ça, parce que c'est assez récent, ça date d'il y a quelques semaines. Et courant début septembre, on voyait ces infos, de voir ces deux espèces de petits vers qui sortent de 46 000 ans de sommeil, en fait.
Oui.
Et ils ont dû se dire, tiens, c'est bizarre ce qui se passe maintenant sur Terre, mais bon, en Sibérie peut-être pas, je ne sais pas. Mais bon, voilà, je trouve cette information fascinante parce que là encore, on est presque dans l'immortalité et ça peut faire rêver.
Oui.
Et donc du coup, comment eux sont immortels? Qu'est-ce qu'ils ont pour être immortels? Quelles molécules? Parce que ça reste des vers de terre, enfin, je veux dire, ils n'ont pas non plus une... comment dire, des protections anatomiques ou autres, ça reste des vulgaires, petits vers, et bien quand même, ils réussissent. Pourquoi pas l'homme? Tu vas voir que ça va déboucher sur des recherches, et je suis sérieux, parce que une telle information ne peut pas passer inaperçue.
Oui, bien sûr. Non, je n'en doute pas. On suivra ça sur Graphite.
Eh bien, on va tout de suite écouter un peu de musique, et on se retrouve après pour toujours continuer à feuilleter l'actualité scientifique. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. We'll be right back.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Vous écoutez Biotine tous les samedis à 12h et tous les mardis à 10h pour vous informer de l'actualité scientifique. On parle de tous les sujets parce que la science est passionnante. On parle de médecine, on parle d'espace, on parle de technologie, on parle d'énergie. Et on va parler un petit peu encore de médecine au sens large, en tout cas d'anatomie,
oui,
peut-être plutôt.
Et, ça, avec et une, de comprendre un petit peu. Une notion un peu historique aussi, oui, de comprendre justement comment est-ce que j'allais dire l'homme a potentiellement évolué, d'où est-ce que ça vient. Et là, on va parler plus précisément de nos coudes et de nos épaules. Voilà, quelle est leur évolution, d'où est-ce que ça vient. On a des épaules qui sont donc rotatives, des coudes qui sont extensibles. En même temps que je parle, je m'étire, ça fait du bien. Et qui nous permettent aujourd'hui de faire énormément de choses. Où on peut être, donc ils ont peut-être d'abord en fait évolué, c'est ce que nous dit donc cet article dans Science Post, comme un système de freinage naturel pour nos ancêtres primates qui avaient simplement besoin de descendre des arbres. Hein. Alors en tout cas, c'est une étude du coup publiée récemment qui en parle. Donc c'est vrai que si on se replonge, il y a plusieurs millions d'années, nos ancêtres simiens ils décidèrent de grimper aux arbres. Alors peut-être cherchaient-ils à se nourrir, à échapper aux prédateurs ou bien simplement à se reposer. Quelle qu'en soit la raison, ces anciens primates ont découvert que le simple fait de grimper n'était pas si simple. Ils ont également vite compris que descendre en un seul morceau était peut-être encore plus difficile. Donc pendant longtemps, les chercheurs spécialisés dans l'évolution se sont interrogés sur les moyens déployés par nos ancêtres pour grimper aux arbres. Donc c'est Nathaniel Domini, biologiste évolutionniste à l'université de Dartmouth, qui nous dit que personne n'a encore pris la peine finalement d'étudier la descente. Hein, un peu comme si on avait oublié en fait une phase très importante. Donc dans de récents travaux, le chercheur et son équipe ont découvert que les singes et nos anciens ancêtres humains ont probablement développé des articulations flexibles au niveau des épaules et des coudes pour contrecarrer les effets de la gravité sur leur corps plus grand. En fait, il faut imaginer une sorte de frein moteur permettant de mieux contrôler la descente. Les chercheurs postulent également que ces adaptations ont persisté lorsque les premiers humains ont peu à peu abandonné les arbres au profit des habitats ouverts. Évidemment, ces habitats y favorisaient la chasse ou encore la cueillette. On sait qu'on était des chasseurs-cueilleurs hein, au départ, avant de manger dans les fast-foods et autres. Voilà. Donc,
l'histoire de l'humanité résumée par Carole.
Voilà. C'est vrai qu'on oublie parfois, des gens oublient qu'en fait quelle était l'alimentation quand même de l'homme. Alors la co-autrice de l'étude, Mary Joy, c'est en fait la première à avoir songé à ce type d'adaptation. L'idée lui est venue en regardant des vidéos de chimpanzés et de singes verts mangabés, donc qui sont originaires d'Afrique occidentale et centrale, en utilisant un logiciel généralement justement utilisé pour analyser les mouvements des athlètes humains. La chercheuse a constaté que lorsqu'ils descendaient d'un arbre, les chimpanzés fléchissaient en effet leurs épaules d'environ 14 degrés de plus et étendaient leurs coudes d'environ 34 degrés supplémentaires en comparaison des plus petits singes. Autrement dit, les chimpanzés donnaient l'impression d'effectuer une chute contrôlée tout en utilisant une amplitude de mouvement complète pour aller le plus vite possible. Cette amplitude de mouvement plus libre correspond à ce que nous savons déjà sur les variations anatomiques entre les chimpanzés et les singes verts. Les premiers, donc les chimpanzés, ont des articulations d'épaule dont la forme rappelle à peu près celle d'une rotule par rapport aux articulations plus en forme de poire chez les plus petits singes. De plus, les articulations du coude chez les chimpanzés s'ouvrent plus largement. Ensemble, ces éléments permettent une plus grande amplitude de mouvement. Et donc quand on s'intéresse maintenant aux humains, on voit qu'ils ont une anatomie des épaules et des coudes qui est similaire à celle des chimpanzés, tout comme les anciens hominidés comme Ardipithecus et Australopithecus. Les chercheurs pensent que cette adaptation a probablement émergé il y a 15 à 20 millions d'années. Ils aimeraient désormais corroborer leur découverte, publiée dans la revue Royal Society Open Science, en examinant la manière dont d'autres gros singes qui grimpent aux arbres de temps en temps, comme les mandrilles, les babouins, gèrent aussi la descente. Et voilà, et c'est tout. Oui, parce que du coup... Et oui, et je cherche ma feuille comme ça. Je reste sur ma faim, mais en fait, non, bah, du coup, il faut continuer. Oui, faut continuer de l'étudier.
De filmer,
oui. Faut continuer en fait d'étudier pour essayer de comprendre cette descente, mais c'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, on a conservé du coup des particularités anatomiques qui sont présentes chez les chimpanzés. Hein. Donc, certainement, notre ancêtre commun les avait et ça lui permettait justement de descendre des arbres. Voilà, j'ai réussi quand même à conclure.
Bravo, félicitations, ça s'appelle du professionnalisme et de l'expérience.
C'est ça.
L'actualité scientifique que l'on peut retrouver sur des revues, sur des sites internet, permet parfois de faire des connexions entre deux articles. Donc là, avec mon esprit un petit peu salace parfois, j'ai trouvé que ces deux articles avaient un lien assez intéressant. Le premier est quand même vraiment sérieux, concerne les cancers du sein. Les chances de survie à un cancer du sein dépendent bien sûr du stade de son diagnostic. Ainsi, le taux de survie s'approche de 100% lorsque ce cancer est diagnostiqué au premier stade, alors qu'il tombe à environ 25% avec des tumeurs qui sont détectées à des stades un petit peu plus avancés. C'est pourquoi il est essentiel de trouver des solutions pour pouvoir détecter le cancer du sein le plus tôt possible. Alors, bien que la radiographie du sein, qu'on appelle la mammographie, elle permet en général de détecter les tumeurs en amont du médecin, on sait que cette méthode, elle manque environ un cancer du sein sur 8. En plus, il y a des tumeurs mammaires qu'on appelle des cancers d'intervalle. Le mot est un petit peu spécial. Et ces tumeurs, elles peuvent se développer entre les mammographies qui sont programmées. Et ces tumeurs représentent 20 à 30% de tous les cas de cancer du sein et ont tendance à être plus agressives que celles détectées lors des examens de routine. C'est ce que rapporte un communiqué du MIT. Le MIT, c'est le fameux Institut de technologie du Massachusetts. C'est l'un des plus grands centres de recherche internationaux.
Incontournable, oui.
Dans le cadre d'une nouvelle étude, les chercheurs du MIT ont conçu un petit appareil à ultrasons qui se glisse directement dans le soutien-gorge et qui pourrait permettre de détecter les tumeurs à un stade plus précoce. Et Kanan Dajviren, qui est professeur associé au MIT, elle explique: mon objectif, c'est de cibler les personnes les plus susceptibles de développer un cancer de l'intervalle grâce à un dépistage plus fréquent. Notre objectif est d'augmenter le taux de survie jusqu'à 98%, ce qui est quand même donc assez formidable. Ce dispositif est donc portable, c'est un patch flexible imprimé en 3D qui présente des ouvertures en forme de nid d'abeille. Il peut être fixé à un soutien-gorge dont les ouvertures permettent à l'échographe d'entrer en contact avec la peau, et l'échographe est lui-même placé à l'intérieur d'un tracker d'ultrasons qui peut être déplacé dans plusieurs positions différentes, permettant ainsi d'obtenir une image de l'ensemble du sein. Pour le moment, les chercheurs ont testé l'appareil sur une femme de 71 ans ayant des antécédents de kyste mammaire, et ils ont pu détecter des kystes d'un diamètre de 3 mm, la taille d'une tumeur à un stade précoce. Donc c'était intéressant de pouvoir détecter grâce à ce dispositif ce genre de petit kyste qu'on n'aurait pas pu détecter par palpation, par exemple.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et les scientifiques ont montré qu'ils pouvaient obtenir des images ultrasonores avec une résolution comparable à celle utilisée dans les centres d'imagerie médicale. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, comme le dispositif portable peut fonctionner à plusieurs reprises, il pourrait être employé donc à domicile par les personnes qui présentent un risque élevé de cancer du sein, ce qui pourrait donc bénéficier ainsi d'un dépistage fréquent et donc régulier. Il pourrait également aider à diagnostiquer le cancer chez les personnes qui n'ont pas accès régulièrement au dépistage. Alors, actuellement, on doit connecter le scanner au même type d'appareil à ultrasons que celui utilisé dans les centres d'imagerie pour visualiser les images échographiques. Mais il y a, pour les scientifiques, le projet de travailler sur une version du système d'imagerie beaucoup plus moderne et efficace, et surtout acceptable pour la personne, parce qu'on aurait une version qui aurait la taille d'un smartphone. Donc effectivement, on est sur des dispositifs à domicile facilement transportables. Ils envisagent également d'adapter la technologie des ultrasons pour scanner d'autres parties du corps. Donc voilà, le titre de cet article de Futura, c'était: le MIT a créé un soutien-gorge intelligent qui détecte le cancer du sein par ultrason. Voilà, c'était le premier article, je trouvais vraiment intéressant.
C'est hyper intéressant, je suis d'accord.
De ce genre de sujet.
J'ai envie d'en savoir plus. Et puis c'est vrai que du coup, oui, on se perfectionne tellement maintenant en fait sur les détections des cancers. Et néanmoins...
Et on peut passer à côté. Donc ouais, là, on trouve des solutions justement pendant ces périodes d'intervalle. Et c'est très bien. Enfin, je trouve intelligent au niveau du journaliste le titre, parce que jamais on parle de soutien-gorge intelligent. Je n'ai jamais parlé de soutien-gorge intelligent, mais c'est le titre. Et je mets cet article avec ce titre un peu, comment dire, accrocheur, on va dire, avec cet autre article qui est totalement sérieux parce qu'il émane du renseignement américain qui veut équiper ses espions de slip connecté.
Mais pourquoi faire ?
Parce que tu as toujours rêvé d'avoir un GPS, une caméra dans ton slip, peut-être, toi.
Non.
Eh ben non. Eh ben non, pourtant, non. C'est une idée qui est un projet, on ne peut plus sérieux, du renseignement et de l'intelligence américaine, département américain, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, un vrai projet sérieux de la communauté du renseignement américain, ce projet qui est financé par le gouvernement à hauteur de 22 millions de dollars.
Ah, c'est énorme.
S'appelle Smart E-Pants, c'est-à-dire pantalon connecté. Oui, ils ont été un petit peu plus larges dans le vêtement. Ils se sont dit que ça sera mieux. Et en fait, Smart E-Pants, c'est finalement pas si malin d'un point de vue de la com, parce que l'article nous dit que il y a un mauvais jeu de mots sur l'expression Smarty Pants, veut dire gros malin, en fait. Et donc, du coup, au niveau de la com, ils auraient pu faire mieux. Il n'empêche que les Américains parlent de pantalon, mais on parle bien de slip, hein, on parle bien de sous-vêtements dans ce dispositif.
Oui.
Le but est de créer toute une gamme de vêtements connectés, en fait. Donc, il n'y aura pas que les slips, il y aura aussi des chaussettes, il y aura des chemises, il y aura donc des pantalons capables d'enregistrer de la vidéo, de l'audio et de la géolocalisation. Alors, le but, ce n'est pas créer des appareils miniaturisés qu'il est possible de cacher dans les vêtements, mais c'est de développer des textiles intelligents où les composants électroniques seront directement intégrés dans le tissu.
Mmh.
Tu n'auras pas les micros.
Donc c'est fini les micros, c'est fini
c'est
les films.
Terminé.
C'est-à-dire, on voit justement, on découvre qu'on est écouté parce qu'il y a le micro sous la chemise. Oui, voilà, là c'est directement ta chemise.
C'est
quoi.
Directement
ouais.
dans le
ton
tissu.
Slip.
Ou dans ton slip. Le projet a tout compris. Le projet a donc pour objectif d'intégrer des fils conducteurs, des sources d'énergie, des capteurs et un système pour pouvoir traiter et stocker l'information. Tous ces éléments devront être flexibles, étirables, lavables. Parce qu'il t'arrive par voie de laver ton slip. On est bien d'accord. Les vêtements connectés devraient être tout aussi confortables parce que tu dois être bien à l'aise aussi dans ton slip, bien évidemment, comme si c'était un vêtement normal, bien sûr. C'est tout l'intérêt du dispositif. Le projet devrait durer 42 mois. Les vêtements connectés ne sont pas uniquement destinés aux espions. L'agence souhaite également équiper les policiers et les équipes de secours qui interviennent sur les scènes de crime.
Oh, c'est hyper intéressant.
Et je trouvais que ces deux articles, par ces deux titres... était assez intéressant de les évoquer, même si derrière, je trouve le premier, bien sûr, sur le cancer du sein, prometteur et qui nous donne une respiration d'optimisme, on va dire. Mm-hmm. Et le deuxième, vous avez compris que c'était un petit peu pour le côté un peu de la gloriole. Ce qui est intéressant dans le deuxième derrière, c'est on en parle pas souvent dans cette émission, c'est ce qu'on appelle les tissus intelligents.
Oui, c'est vrai.
C'est un dispositif assez récent et effectivement, on va avoir... On a des choses... Pour l'instant, quand on parle de tissus intelligents, on était plutôt dans le côté un peu gadget. Là, on va être sur des choses beaucoup plus intéressantes d'un point de vue... appropriation d'une information, traitement de l'information, diffusion de l'information, quelle qu'elle soit, enfin de données, on va dire.
Mmh.
Voilà. C'est les deux articles que je souhaitais vous évoquer dans cette émission. Est-ce que tu as un court article ou est-ce
oui,
que...
bien
très
sûr,
court, et ben on est parti.
Évidemment. Moi, j'ai tout ce qu'il nous faut. Oui, comme ça, on va rester dans quelque chose aussi, j'allais dire, un sujet justement un petit peu insolite, mais qui est intéressant. Tu sais, Jean-Noël, que moi, j'adore parler de sujets qui sont en relation avec le comportement animal, hein, évidemment. Et donc, quand je tombe dessus, je ne manque pas de le relayer. Là, c'est les crocodiles qui sont à l'honneur dans un article donc, de Science et Avenir qui date de mi-septembre. Alors, plutôt de mi-août, donc un peu plus ancien, au courant de l'été, où en fait, du coup, un chercheur français nous parle d'une expérience, donc il s'appelle Nicolas Grimaud, et il nous parle d'une expérience qui a montré que les crocodiles identifient en fait parfaitement la détresse dans des cris de bébés singes ou humains. Alors, on peut se demander aussi pourquoi cette recherche. Mais donc, c'est une équipe de chercheurs français de Lyon et de Saint-Étienne qui ont établi que les crocodile était capable de percevoir donc la détresse dans les cris de bébés singes et humains malgré le fort éloignement de ces espèces. Évidemment, en termes de phylogénie, hein, c'est des espèces assez éloignées. Et ça, c'est une étude qui est très sérieuse et qui a été publiée dans le journal Proceedings of the Royal Society B pour Biological Science. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des échantillons sonores de cris de bébés humains bonobos et chimpanzés, diffusés vers des bassins de nombreux crocodiles du Nil dans un parc zoologique d'Agadir au Maroc. Et ils ont constaté que les reptiles sont davantage attirés par ces cris lorsqu'ils sont empreints de détresse. Donc voilà, il faut imaginer différents types de cris et ils ont réussi à faire la distinction. Alors l'idée au départ, c'était de se pencher en fait sur l'universalité des caractéristiques de détresse dans les cris des animaux. Mais au cours de leur étude, les chercheurs se sont aperçus que les paramètres acoustiques pour juger de la détresse étaient plus pertinents chez les crocodiles que chez l'humain. L'expérience a montré que les crocodiles identifient parfaitement la détresse dans des cris de bébés, donc comme je l'ai dit, hein, soit des bébés singes, soit des bébés humains, mais aussi que plus les cris contiennent de la détresse, plus les reptiles réagissent. Alors, le principal chercheur dont je vous parlais, il est directeur de recherche donc, au laboratoire cognition auditive et psychoacoustique. Et donc, c'est lui l'un des principaux auteurs de cette étude très sérieuse qui a été menée. Et alors lui, son explication, c'est de dire en fait que les crocodiles se basent sur des critères de rugosité, de chaos dans le cri, ce qui est plus pertinent que le critère sur lequel se basent les humains, qui est la hauteur du son. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les crocodiles sont capables dans leur analyse justement d'analyser ces cris de détresse différemment des humains qui pourtant par exemple avec des bébés en l'occurrence devraient être les plus à même d'avoir des outils pour identifier ça. Mais en fait, on ne le fait pas de la même façon. Et pour le chercheur, cette acuité, elle peut s'expliquer par le fait que les crocodiles sont des animaux à sang-froid, très économes dans leurs mouvements et opportunistes, à la recherche de proies en situation de faiblesse. Et donc c'est pour ça en fait finalement c'était un avantage certainement adaptatif et qui leur a permis, on sait que les crocodiles sont très 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 anciens sur Terre, hein, mais de survivre. Et la conclusion c'est de dire plus un animal est en détresse, plus c'est une proie facile.
Et bien sûr.
Et donc les crocodiles c'est, qui en effet ne bougent que si vraiment ça vaut le coup, j'ai envie de dire, et ben ils ont les outils pour pouvoir identifier du coup la vulnérabilité des autres animaux. Bon, ils n'iront pas manger les bébés singes et les bébés humains, mais c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, d'autres animaux peuvent décrypter, du coup, ces cris de détresse, donc chez totalement une autre espèce.
Comment s'appelle la discipline scientifique qui parle du comportement des animaux ?
L'éthologie.
Eh bien, l'éthologie, il y a une petite brève dans Science et Avenir qui parle de cette étude menée dans des bars à chats.
Ah oui, il y en a
Bordeaux,
de plus en plus.
À
oui.
Toulouse, une étude de l'université de Paris-Nanterre qui montre que les chats sont peu réceptifs à la communication vocale seule. C'est-à-dire, le chat, il est appelé par son nom, mais sans contact visuel. En revanche, ils répondent mieux aux signaux visuels seuls.
D'accord.
Et donc l'idéal est d'associer le geste à la parole pour tenter d'attirer les chats. En fait aussi, on sait que les chats, ils ont parfois aussi
Ils entendent, mais voilà, ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà.
Et donc voilà, avec les chats, il faut allier le geste à la parole.
C'est plus efficace, c'est bon
plus
à savoir.
Efficace, c'est ouais. Bon à savoir. Et pendant des années, on a essayé de savoir comment on peut attirer l'attention des chats. Et
bien, moi, je pensais que c'était avec des croquettes, mais du coup, l'un n'empêche pas l'autre.
Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement. Merci Carole, on se retrouve samedi prochain pour la suite.
Bah avec grand plaisir, je reste encore une fois dans le studio pour le mois de septembre.
Mais oui, pour avoir la suite de la lecture de ce grand livre de la vie qu'est la science, évidemment.
Évidemment.
Nous tournons les pages toutes les semaines dans cette émission. Dans un instant, la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de votre station préférée sur le site internet graphite.net. Net. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À samedi prochain, Carole.
À samedi, Jean-Noël.
Au revoir.